Bonsoir Amélie.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel de ce lundi 23 septembre commence par l'ouverture d'un procès XXL.
Costume sombre et cheveux gris, les prévenus au procès du Mediator ont défilé à la barre pour la première fois cet après-midi. Ils vont devoir expliquer pourquoi le médicament a été prescrit pendant 33 ans, malgré les malades, malgré les morts. Thomas Cook plie bagage, le voyagiste britannique a fait faillite et laisse 600 000 voyageurs coincés et des agences portes closes. Le sommet climat à New York au siège de l'ONU, Greta Thunberg s'en prend au grand dirigeant de la planète. Comment osez-vous? Vous avez volé mes rêves et mon enfance. Des sanglots dans la voix, leur lance-t-elle. La pluie de retour demain, temps maussade et météo complète à la fin de ce journal.
À 18h15, un jour dans le monde, Amélie, avec les Espagnols qui doivent dissoudre leur parlement aujourd'hui, ouvrant la voie à de nouvelles élections, les quatrièmes en 4 ans. Coalition impossible dans ce pays depuis que le bipartisme a explosé. On essaiera de comprendre pourquoi. Nous serons en Afghanistan aussi ce soir. Comment peut-on vivre à Kaboul? Les habitants commencent à reprocher aux étrangers leur présence car ce sont des cibles. Et puis 19h20, le téléphone sonne de la protestation en démocratie. Comment manifester aujourd'hui? Est-ce que la rue a encore un sens? De plus en plus, et notamment sur les questions de climat, s'organise une désobéissance civile. Les décrocheurs en sont une des illustrations. Une autre forme de lutte est-elle possible? Est-elle nécessaire? 01 45 24 7000.
France Inter.
Un médicament donc à la barre.
Un médicament accusé d'avoir rendu malade, d'avoir tué. Le procès du Mediator s'est ouvert aujourd'hui au tribunal correctionnel de Paris. Sur le banc des prévenus, les laboratoires Servier, fabriquant les comprimés. L'agence du médicament accusée d'avoir trop tardé pour interdire le Mediator. Et certains de ses membres qui entretenaient des liens avec Servier. En face, 2600 parties civiles, comme Lisa Boussineau, elle a perdu sa mère qui prenait du Mediator.
Ça fait 8 ans que j'attends ce procès, 15 ans que ma mère est morte. C'est aujourd'hui pour nous l'aboutissement d'un long combat judiciaire.
Qu'est-ce qui s'est passé pour votre maman ?
Alors ma mère a consommé du Mediator pendant quelques mois, courant de l'année 2003, et elle a rapidement eu une valvulopathie, une hypertension artérielle pulmonaire et en est décédée en 15 minutes à notre domicile. Ma mère, elle avait que 51 ans, ma mère, elle était dynamique, elle était en très bonne santé, elle a juste consommé ce médicament pendant quelques mois et ça lui a éclaté le cœur jusqu'à provoquer son décès. C'est terrible, 51 ans, on ne meurt pas à cet âge-là, on meurt à 96 ans comme Servier a crevé, ouais, ça ouais.
Lisa Boussineau, partie civile au micro de Sophie Parmentier. Bonsoir Corinne Audouin.
Bonsoir Amélie.
Vous suivez vous aussi le procès du Mediator pour France Inter. On est parti pour des audiences jusqu'à fin avril de l'an prochain, 7 mois de procès. Et en ce premier jour, les prévenus ont défilé à la barre. Racontez-nous Corinne.
Oui, ils sont 9 à être venus en ce premier jour, 9 sur les 12 personnes physiques renvoyées devant le tribunal. 7 hommes, 2 femmes que la présidente appelle à la barre et qui se disposent en arc de cercle, les mains dans le dos, les cheveux sont gris ou blancs, les hommes sont en costume cravate, ils ont de 61 à 83 ans. Il y a l'ancien numéro 2 de Servier, son ex-secrétaire général, mais aussi des médecins, des experts et même une ancienne sénatrice. S'avance aussi un représentant des laboratoires et le directeur général de l'agence du médicament. Car ce qu'on va juger ici pendant 7 mois, ce sont à la fois les laboratoires accusés d'avoir trompé le public sur la nature du Mediator, mais aussi le manque de vigilance des autorités sanitaires, ainsi que tous ceux qui, payés par Servier, auraient participé à cet aveuglement général. Avec beaucoup de solennité, la présidente Sylvie Denis a ouvert ce procès hors norme en s'adressant aux parties civiles, dont elle a dit comprendre l'impatience et la frustration. Le tribunal n'est pas compétent pour dire combien de morts le Mediator a pu causer, a-t-elle expliqué, mais pour juger des infractions et dire le droit avec un souci déjà palpable de dignité et de calme.
Corinne Audouin et Romain Luquien, sous moyen technique, merci à vous deux. Les protagonistes, les enjeux, l'historique, tout sur le procès du Mediator et notre podcast Poursuite sur le scandale et ses coulisses, c'est à retrouver sur franceinter.fr.
Un naufrage industriel, maintenant la fin brutale de Thomas Cook.
Son fondateur, le vrai Thomas Cook, avait inventé vers 1840 les voyages organisés. Aujourd'hui, environ 600 000 clients se retrouvent sans aucune organisation. La compagnie a fait faillite brutalement la nuit dernière. Environ 22 000 employés du groupe risquent de perdre leur emploi très vite. Quant aux voyageurs, les 150 000 Britanniques en ce moment à l'étranger vont être rapatriés grâce à un gigantesque plan des autorités. Ceux qui ne sont pas encore partis pourraient tout perdre, eux. Notre correspondant Antoine Gignot en a rencontré quelques-uns à Brighton, une cité balnéaire dans le sud du Royaume.
Il y a sur la porte une simple feuille de papier. Avec ces mots, le bureau est définitivement fermé. Une annonce presque impossible à croire pour Jonathan. Il avait déjà fait sa valise pour partir en famille en direction de la Turquie.
Je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas ce que je dois faire. Sur leur site internet, ils disent qu'on doit contacter les assurances. Mais moi, j'ai 4 enfants qui attendent de partir en vacances à Antalya. Je suis vraiment déçu, on ne s'attendait pas du tout à ça. On espérait que le gouvernement donnerait l'argent qui manque à la compagnie. Ça va coûter cher de rapatrier tout le monde.
Car l'opération gigantesque déclenchée par le gouvernement pour ramener chez eux les centaines de milliers de voyageurs dispersés dans une 60aine de pays pourrait coûter plus de 700 millions d'euros. Sur le trottoir, les proches des vacanciers viennent aux nouvelles, comme Paula, sa mère, devait rentrer ce matin.
Elle va bien. Je viens de lui envoyer un message. Ils sont quelque part en Tunisie. Ils sont en train de lui trouver un vol pour rentrer à la maison. Je vais en Turquie tous les ans. J'ai fait mon voyage de noces avec eux. Ils sont fantastiques. Je suis très choquée et très triste.
À l'intérieur de l'agence, quelques employés rassemblent des affaires, un aspirateur, un sac avec des t-shirts publicitaires. La porte s'ouvre. Certains sortent les larmes aux yeux et l'un d'eux confirme « Oui, on travaille bien ici. Enfin, on y travaillait jusqu'à ce matin. » Brighton, Antoine Gignot, France Inter.
Et outre les 150 000 touristes britanniques bloqués, d'autres pays sont concernés. Environ 10 000 Français, 10 000 Belges, 10 000 Néerlandais et 140 000 Allemands à rapatrier également. C'est le deuxième plus gros contingent après les Britanniques. Et les temps sont durs décidément dans le tourisme puisque deux compagnies aériennes françaises sont sur la sellette également. XL Airways et Aigle Azur. Le tribunal de commerce d'Evry doit reprendre demain les auditions pour trouver un repreneur à Aigle Azur. Dans le même temps, le tribunal de commerce de Bobigny a placé cet après-midi en redressement judiciaire XL Airways. Les investisseurs ont jusqu'à samedi pour déposer leur offre de reprise. Des coups de pouce financiers pour les personnes âgées dans le viseur du gouvernement. Il va réduire un avantage accordé aux plus de 70 ans qui emploient une aide à domicile. Cela veut dire réserver l'exonération de charges patronales seulement aux personnes dépendantes ou handicapées. Le gouvernement présente son projet de budget 2020 vendredi. Et comme il faut aussi faire entrer des recettes dans les caisses de l'État, Bercy s'attaque à la fraude à la TVA. C'est la fraude la plus massive. Environ 20 milliards d'euros de perdus en France chaque année. Sur les plateformes de commerce en ligne, par exemple, les prix comprennent la taxe sur la valeur ajoutée, mais peu de commerçants la reversent au fisc. Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics, s'est rendu cet après-midi sur un site du géant Amazon à Villacoublay, au sud de Paris, avec cette ambition que chacun paye sa TVA. C'est le reportage de Maxime Debs.
La fraude à la TVA est la principale fraude constatée par le fisc chaque année et Bercy veut prendre un peu d'avance sur une directive européenne et qui devra être transposée à tous les États membres au plus tard au 1er janvier 2021. Aujourd'hui, trop d'argent échappe à l'État via les plateformes et pour le ministre Gérald Darmanin, il est temps que ça cesse.
Vous commandez quelque chose sur Internet, fait livrer. Alors déjà, vous ne savez pas en regardant le prix si c'est avec ou sans TVA, ce qui pose déjà un premier problème. Si c'est sans TVA, c'est-à-dire que la plateforme chinoise ou américaine, elle vend un produit 20% moins cher que la plateforme française, ce qui est un problème évidemment de concurrence. Et parfois, elle met les 20% de TVA, mais elle les garde.
Avec cette mesure, Gérald Darmanin estime à plusieurs milliards la somme que l'État pourra récupérer. Les sites d'e-commerce seront redevables de la TVA, donc sur tous les produits commandés par les clients français et expédiés de l'étranger, égard aux mauvais payeurs.
Nous avons discuté avec le ministre ce matin et les responsables des plateformes d'une liste noire des plateformes. Nous rendrons publique les entreprises étrangères qui ne payent pas leur juste impôt en France. Je crois que les citoyens, ils sont très attachés.
Ces nouvelles obligations seront donc incorporées dans le projet de loi de finances qui sera présenté vendredi. À Vélizy-Villacoublay, devant le site d'Amazon, Raymond Albuy, Maxime Debs, France Inter.
Il est 8h09 sur France Inter. Objectif zéro carbone, c'est l'engagement pris par 68 pays.
Une neutralité carbone d'ici 2050. 66 États ont répondu à l'appel pour tenir l'objectif des scientifiques afin de contenir le réchauffement de la planète, comme c'était écrit dans l'accord de Paris. 66 États, cela représente moins de la moitié des chefs d'État et de gouvernement présents cette semaine à New York pour l'Assemblée générale de l'ONU. Les États-Unis n'y figurent pas, même si le président Trump a passé une tête cet après-midi. De nombreuses absences aux grandes dames de la jeune militante suédoise Greta Thunberg. Voilà ce qu'elle a dit aux puissants de ce monde il y a quelques instants à la tribune de l'ONU.
Vous avez volé mes rêves et mon enfance avec vos paroles creuses. Et encore, je fais partie des chanceux. Les gens souffrent, les gens meurent, des écosystèmes entiers s'effondrent. Nous sommes au début d'une extinction de masse. Et tout ce dont vous pouvez parler, c'est de l'argent et du conte de fées d'une croissance économique éternelle. Comment osez-vous ?
Voilà la militante Greta Thunberg. En France, l'objectif de zéro émission de carbone d'ici 2050 doit être inscrit dans la loi. Le vote final au Sénat est prévu fin septembre. Quant au niveau européen, Emmanuel Macron accuse la Pologne de bloquer toute avancée. Le président français appelle les jeunes à manifester là-bas. Qu'on vienne m'aider à faire bouger ceux que je n'arrive pas à faire évoluer, dit le président. L'écologiste Yannick Jadot invite le chef de l'État à s'occuper d'abord de la France avant de donner des leçons à la Pologne.
Que M. Macron fasse son boulot, qu'il arrête de faire des discours, qu'il agisse. On est très content quand il tape Bolsonaro à l'international, mais on aimerait qu'il agisse dans notre pays et au niveau européen. Ce n'est pas parce que les Polonais ne font pas grand-chose, c'est vrai, que nous ne devons rien faire. La trajectoire de la France n'est pas tenue. Le gouvernement peut agir et on ne comprend toujours pas pourquoi il place l'intérêt du lobby automobile, de Total, l'intérêt des pesticides, au-dessus de l'intérêt des Français, au-dessus de l'intérêt du climat, au-dessus de l'intérêt de notre santé et au-dessus de l'intérêt de l'emploi.
Ils peuvent encore se rattraper, le budget n'est pas encore tout à fait bouclé.
Ils peuvent se rattraper, enfin les premières indications qu'on a sur les sacrifices en termes de ressources humaines, c'est le ministère de l'écologie qui subit les pires sacrifices. Est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui besoin d'un grand service public de l'écologie pour aller beaucoup plus vite ? Bien sûr que nous en avons besoin.
L'eurodéputé vert Yannick Jadot au micro de Laurence Perron. Sauver la planète, c'est aussi sauver les forêts. La Banque mondiale, la Banque interaméricaine de développement, l'ONG Conservation internationale et d'autres débloquent environ 500 millions de dollars pour protéger les forêts tropicales, dont l'Amazonie. En bref, encore à l'étranger, quatre pays européens ont trouvé un accord pour accueillir les migrants débarquant de Méditerranée. Les ministres des Affaires étrangères de France, d'Allemagne, de Malte et d'Italie étaient réunis dans la capitale maltaise pour mettre au point un système de répartition automatique. Ce préaccord doit encore être validé par l'ensemble des pays de l'Union. En France, il y avait eu le manifeste des 343 il y a près d'un demi-siècle. 343 femmes, célébrités pour certaines, qui signaient ce manifeste pour l'avortement. Aujourd'hui, 490 Marocaines signent une tribune similaire dans la presse de leur pays et dans le journal Le Monde. Parmi elles, la romancière Laïla Slimani. Elle se déclare hors la loi, avoue avoir déjà eu des relations sexuelles hors mariage ou eu recours à une IVG. Le débat est relancé dans le royaume avec le procès d'une jeune femme, Aja Ressouni, en détention depuis 3 semaines pour avortement illégal et débauche, le terme marocain pour parler de relations hors mariage.
Allez, on termine ce journal au musée Carnavalet à Paris.
Car même s'il est en travaux et fermé depuis 3 ans, il en profite pour restaurer certaines de ses œuvres, notamment des enseignes de commerce et d'auberges. Elles datent pour la plupart du XVIIIe siècle. Et pour permettre ce chantier sur une vingtaine d'enseignes, donc, le musée a lancé une plateforme de financement participatif. Mais les restaurations ont, elles, déjà débuté, Bastien Munch.
Effectivement, est-ce que ce jaune-là va aller avec ma couleur du fond ?
C'est l'heure du point d'étape pour la restauration de la Truie qui file, une enseigne de boucherie du début du XVIIIe siècle, habituellement exposée au musée Carnavalet. Julie André s'occupe de la restauration de cette œuvre en bois.
Je suis en train de proposer de nettoyer un peu plus le fond, de manière à pouvoir redessiner le volume de la truie pour qu'il y ait quelque chose qui soit plus lisible pour le public.
Souvent accrochés au-dessus des commerces, quand les rues n'avaient pas encore de numéro, les enseignes ont aujourd'hui donné leur nom à des rues de Paris, comme celle du Chat qui pêche. Le musée Carnavalet en possède à peu près 200. La Truie qui file et 19 autres vont bénéficier d'un appel aux dons en ligne pour leur restauration. Marie-Laure Deschamps est la conservatrice du musée Carnavalet Histoire de Paris.
On s'est dit que c'était des objets atypiques, des objets populaires, des objets qui pouvaient attirer un public différent, un public de jeunes, un public qui ne vient pas, qui s'imagine que dans les musées, il n'y a que des peintures, des sculptures. Nous pensons que chacun pourra s'approprier plus facilement un objet comme une enseigne, plutôt qu'une peinture de quelqu'un de célèbre. Voilà, ça paraît plus accessible en fait.
Pour la restauration de ces enseignes, le musée Carnavalet espère récolter 80 000 euros d'ici au 17 novembre.
Et le musée Carnavalet rouvrira ses portes le printemps prochain dans le Marais à Paris.
Et merci Amélie Perrier.